Eh bien, nous allons parler du phénomène du Tea Party. Eh bien, pour beaucoup, surtout en Europe, c'est une curiosité. Cependant, elle n'en reste pas moins dangereuse. Eh bien, effectivement, ce parti est apparu il y a tout juste un an. C'est un mouvement très hétéroclite et qui s'apparente vraisemblablement à la droite libertarienne, ce que l'on appelle communément la droite, voire l'extrême droite du Parti républicain américain. Ce sont surtout des ultra-conservateurs, des ultra-libéraux, des anti-Obama, des anti-impôts, des anti-taxes, anti-élites, anti-fédéralistes, anti-réchauffistes et anti-immigrés. Mais le plus important, c'est leur anti-étatisme et leur anti-collectivisme. Eh bien, nous allons voir pourquoi. Eh bien, tout commence le 19 février 2009, en direct du Chicago Mercantile Exchange. Rick Santelli, qui est journaliste économique à la chaîne câblée CNBC, succombe à une crise de colère en apprenant que la nouvelle administration Obama propose un soutien financier aux Américains qui sont sur le point de perdre leur logement parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs prêts immobiliers. Il se demande alors pourquoi les citoyens plus protégés devraient subventionner les prêts immobiliers des losers. Il appelle alors à une Tea Party à Boston en juillet. Il invite donc tous les capitalistes à se retrouver au bord du lac Michigan. En fait, la Tea Party à Boston, eh bien, elle fait référence à un événement historique américain qui a eu lieu en 1773 et qui était une révolte anti-britannique à propos du refus de certains Américains de vouloir consommer le thé anglais. Donc c'est la naissance du Tea Party et régulièrement, eh bien, il y a des manifestations anti-Obama qui sont organisées dans tout le pays pour protester contre les mesures prises par le gouvernement sur le bail-out notamment, c'est-à-dire en fait le plan de sauvetage des banques qui a été adopté au moment de la crise économique, puis la réforme de la santé qui a suivi. Donc ces Tea Party patriotes, comme ils aiment à se faire appeler, ils adoptent la stratégie du ni-ni, ni démocrate, ni républicain. Les démocrates sont les ennemis de toujours, et à plus forte raison depuis leur évolution prétendue socialiste, et l'establishment américain est suspecté, lui, de compromission et d'impureté idéologique avec le gouvernement Obama. Cette stratégie du ni-ni n'est en fait qu'un écran de fumée. En pratique, leur objectif est d'infléchir la politique du Parti républicain en les poussant à adopter une ligne plus conservatrice, conservatrice au sens d'anti-étatique, évidemment, car le trait d'union qui relie tous ces Tea Party patriotes, c'est la phobie de l'État, la crainte que l'administration Obama ne prépare une sorte de mise à pied de la société par le gouvernement. Toujours est-il que les objectifs de ce militantisme ressemblent à un manifeste de libéralisme on ne peut plus classique. Lutter pour moins de gouvernement, moins d'impôts et plus de liberté. Ils souhaitent abolir le code fiscal actuel, remplacer les retraites financées par la répartition du Social Security par un mécanisme de capitalisation et donner aux ménages des alternatives à l'école publique. La galaxie des Tea Party patriotes est vaste. Mais les principes dont ils se réclament, ceux des pères fondateurs de la République américaine, se traduisent par 9 principes et 12 valeurs. Les principes défendus traduisent presque systématiquement le souci de l'intérêt général et la défense des libertés individuelles des pères fondateurs dans un langage nationaliste et égoïste. Ils se réfèrent par ailleurs au Bill of Rights, c'est-à-dire les libertés fondamentales qui sont définies par les 10 premiers amendements de la Constitution américaine. En fait, ces populistes choisissent habilement les principes constitutionnels qui correspondent le mieux à leurs valeurs. Ils insistent beaucoup sur le second amendement qui défend le port des armes. Cet amendement qui vise à protéger les citoyens contre un gouvernement incontrôlé qui souhaiterait les prendre en main, rejoint le 10e amendement. Celui-ci réserve aux États et au peuple l'ensemble des pouvoirs qui ne sont pas nommément délégués au gouvernement fédéral. Donc selon les Tea Party patriotes, cet amendement est foulé aux pieds par la jurisprudence contemporaine qui acquiesce sans scrupule à l'expansion de l'autorité fédérale proposée par Obama, notamment par cette réforme du système de santé. Donc il propose donc des résolutions de souveraineté des États pour endiguer ce qu'il nomme le fléau rouge. Par ailleurs, le mouvement semble d'autre part tenté par certaines idées chères aux conservateurs plus classiques. Il s'oppose farouchement à la thèse du réchauffement climatique. Eh bien, le raisonnement, quel est-il ? Le réchauffement climatique est un mythe de la science qui prétend le prouver et qui est incomplète, voire mensongère. Il s'oppose d'autre part à la réforme de l'immigration, c'est-à-dire aux efforts qui ont été commencés sous Bush pour trouver une voie aboutissant à la régularisation de millions d'immigrés illégaux présents sur le sol américain. Dans les deux cas, ces positions sont au moins en partie justifiées par un anti-étatisme foncier. Le réchauffement Alors, le réchauffement climatique est considéré comme un prétexte pour élargir les pouvoirs du gouvernement fédéral, alors que la réforme de l'immigration est citée comme un exemple du mépris du gouvernement pour la loi, puisqu'il entend récompenser, selon eux, des activités criminelles. Donc, il est étrange qu'un mouvement de cette envergure n'ait pas de maître penseur. Ne vous y fiez pas. Il existe une écrivaine du nom de Ayn Rand qui suscite l'admiration chez les Tea Party patriotes par sa critique du collectivisme. En fait, c'est une immigrée russe qui a fui la révolution bolchevique pour Hollywood et puis ensuite pour New York. Eh bien, elle a offert à son pays d'adoption une philosophie fondée sur l'individualisme extrême qu'elle baptise objectivisme. Donc, c'est une sorte de Nietzsche. Toutefois, ces idées, bien que considérées comme assez risibles, exercent une fascination chez les libertariens de droite qui, en pleine révolte contre Obama, eh bien, leur trouvent une qualité prophétique. La clé de voûte de la pensée d'Ayn Rand est un argument assez surprenant. L'altruisme, prétend-elle, est la position éthique la plus immorale qui soit. L'altruisme est en fait un collectivisme, un principe d'organisation sociale niant la liberté et l'indépendance individuelle. Puisque seul l'individu et ses actions sont susceptibles de dignité morale, l'égoïsme est non seulement un fait, mais une vertu, encore plus la vertu la plus élevée qui soit. Par conséquent, le principe d'organisation sociale le plus vertueux qui soit est le capitalisme, dit-elle, le seul système qui ne méprise pas l'individu et qui ne le force pas à sacrifier ses désirs et son raisonnement à une instance collective. Eh bien, c'est l'anti-Marx par excellence, bien qu'elle admire les fondateurs des États-Unis d'avoir traduit cette éthique dans une forme politique concrète, rend discerner dans la société américaine de l'après-guerre une tendance vers la négation de l'éthique égoïste et vers l'imposition par la force des valeurs altruistes collectivistes. Elle dénonçait les évolutions liées aux politiques de Franklin Roosevelt et de Lyndon Johnson, se prenant tour à tour aux politiques inflationnistes, à la réserve fédérale, aux services de soins socialisés, à la lutte contre la pauvreté, toujours au nom de la défense de l'individualisme contre le collectivisme étatique. Eh bien, la pensée de Rand exprime en termes théoriques les soucis des Tea Party patriotes. Quand Obama est accusé d'être socialiste, ce qui peut en étonner plus d'un, on lui reproche en fait d'être collectiviste au sens de Rand. On l'accuse moins d'être un adepte de la révolution prolétarienne qu'un de ses fonctionnaires qui entreprend de limiter la liberté individuelle au nom d'idées faussement bien-pensantes. Le Tea Party considère Ayn Rand comme d'une actualité brûlante. La crise économique sert de prétexte à une prise en charge de la société par l'État, disent-ils. La récession actuelle n'est pas une crise du capitalisme, mais au contraire une conséquence de la faiblesse du capitalisme dans la société actuelle. Donc le Tea Party en appelle donc à lutter contre l'étatisme et le collectivisme. Tout ceci a abouti, donc pour les élections de mi-mandat la semaine dernière, à désavouer la politique d'Obama en donnant une large majorité de la Chambre des représentants aux républicains et à l'entrée au Congrès américain de deux candidats élus venant du Tea Party, Marcio Rubio en Floride et Rand Paul dans le Kentucky. À vrai dire, ce désaveu n'est pas surprenant. Le chômage flirte avec les 10% depuis bientôt 3 ans outre-Atlantique. Or, 10% de chômeurs aux États-Unis ne correspond pas à 10% de chômeurs en Europe. En fait, il est difficile de comparer, mais il faut savoir qu'en Amérique, les indemnités de chômage ne durent que quelques mois et il n'existe ni RMI, ni assurance maladie généralisée, ni CMU. La situation des sans-emploi américains est terrible, d'autant plus que ce chômage élevé se combine avec un niveau colossal de surendettement des ménages. C'est très inquiétant. La situation économique des travailleurs américains n'a jamais été pire et certainement pire qu'il y a un an quand Obama est entré en fonction. Donc Obama a joué avec le feu, avec une proximité trop grande avec Wall Street, une sous-estimation de la question de l'emploi dans ses priorités. Le modèle américain en est arrivé au bout du rouleau du fait de l'ampleur croissante de ce surendettement des ménages et du déficit du commerce extérieur qu'il a lui-même suscité. Donc l'administration Obama, tout comme celle de l'administration Bush auparavant, a visé à développer et à renforcer les bénéfices des riches au détriment de larges couches de la population américaine. Sur toutes les questions fondamentales, le gouvernement a continué en 2009 à défendre les intérêts de la bourgeoisie en passant presque 100 heures de l'administration républicaine à l'administration démocrate. Les démocrates, après avoir remporté une élection en promettant le changement, se sont servis de leur succès pour mener une politique qui se retourne contre eux. Obama a mené les guerres de Bush, poursuivi la chasse aux sorcières terroristes de Bush, surenchéri les cadeaux de Bush aux grandes banques, a rajouté aux sacrifices que Bush a imposés aux travailleurs de l'automobile, a repris les projets de Bush contre les immigrés, a attaqué aussi les enseignants et l'école publique, a accru les bénéfices des géants des assurances, des laboratoires pharmaceutiques et des hôpitaux privés. la situation est vraiment devenue catastrophique. Au début de 2010, 15 millions de personnes étaient officiellement au chômage et auxquelles il faut rajouter, bien sûr, près de 9 millions de salariés à temps partiel et qui voudraient travailler à plein temps, bien sûr. Une vaste étude réalisée par la Northeastern University de Chicago constate que 30,2 millions de personnes étaient au chômage ou sous-employées à la fin de 2009. Depuis le crash de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les suppressions d'emplois n'ont jamais été aussi nombreuses et cela va durer. Près de 9 millions de personnes ont été au chômage pendant au moins la moitié de l'année et beaucoup plus encore. La course à une productivité de plus en plus grande se traduit par de plus en plus de suppressions d'emplois. Même quand la production reprend un peu, les entreprises diminuent ouvertement les salaires, en plus des habituelles réductions de salaire résultant de l'inflation. Et par ailleurs, pour payer beaucoup moins la nouvelle génération de travailleurs, les entreprises, les États, s'efforcent bien souvent de se débarrasser des travailleurs les plus âgés ayant trop d'ancienneté. La crise du logement continue de s'aggraver. Près d'un quart des propriétaires américains ayant une hypothèque doivent plus que la valeur de leur maison. Dans cette situation de plus en plus grave, qui est amplifiée bien sûr par les politiques des démocrates et des républicains, les organisations d'extrême droite, notamment le Tea Party, ont pratiquement été les seules forces organisées de quelque importance à s'exprimer. La plupart des mouvements récemment apparus viennent des couches sociales qui soutiennent traditionnellement les causes réactionnaires de la droite, comme par exemple les campagnes contre l'avortement, la décadence morale ou le fédéralisme. Par ses dénonciations coléreuses et sa rhétorique populiste, l'extrême droite a été en mesure de toucher la colère couvant dans de grandes parties de la population. C'est ainsi que cette extrême droite a pu bénéficier de son opposition à cette réforme de la santé. Et elle se sert de cette ouverture pour détourner la colère populaire vers toute une série de causes réactionnaires, dénonçant les immigrés, jouant parfois sur les attitudes racistes, attaquant les médecins qui pratiquent des avortements et bien sûr semant la confusion, par exemple en dénonçant le renflouement des banques comme du socialisme, ou prétendant que les déficits budgétaires énormes sont la conséquence de programmes sociaux ruineux. Les partisans du Tea Party sont plus issus des classes moyennes que de la classe ouvrière. Ils ont un revenu légèrement supérieur à la moyenne, sont un peu plus susceptibles d'avoir un diplôme universitaire et moins susceptibles d'avoir été licenciés, même s'ils ont peur de perdre leurs emplois. En d'autres termes, ils appartiennent aux traditionnelles couches inférieures de la classe moyenne qui composent généralement les mouvements de droite imprégnés d'idéologies individualistes. Mais il n'y a pas que cela derrière la croissance de cette extrême droite et du Tea Party. Le Parti démocrate a joué un grand rôle en poussant vers elle un certain nombre de travailleurs en colère. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation presque classique. C'est que les démocrates, c'est-à-dire ce qui se passe pour être la gauche dans un pays qui finalement n'a pas de gauche, se chargent d'imposer les sacrifices aux Américains, tandis que la droite met un masque populiste et s'adresse à la colère grandissante de la population, mais seulement pour tourner cette colère contre la population elle-même. La montée de l'extrême droite comporte un vrai danger potentiel pour les travailleurs américains. Elle n'est pas belle à voir, cette Amérique. Quand les républicains sont au pouvoir, tout l'argent va aux riches. Quand les démocrates sont au pouvoir, c'est la même chose. Le Tea Party ne fera pas mieux. Alors que faire ? Gouvernons nous-mêmes.